Chapitre 2. La royauté reste seule. Les privilégiés s'exilent ou se soumettent. Ils déclarent qu'ils voteront désormais dans l'Assemblée nationale, subiront la majorité. Isolée et découverte, la royauté apparaît ce que depuis longtemps elle était au fond, un néant. Ce néant, c'était la vieille foi de la France. Et cette foi déçue fait maintenant sa méfiance, son incrédulité. Il la rend prodigieusement inquiète et soupçonneuse. Avoir cru, avoir aimé, avoir été depuis un siècle toujours trompé dans cet amour, c'est de quoi ne plus croire à rien. Où sera la foi maintenant? On éprouve à cette question un sentiment de terreur et de solitude, comme Louis XVI lui-même au fond de son palais désert. La foi ne sera plus dans aucun pouvoir mortel. Le pouvoir législatif lui-même, cette assemblée chère à la France, elle a maintenant ce malheur d'avoir absorbé ses ennemis, 500 ou 600 nobles et prêtres, et de les contenir dans son sein. Autre mal, elle a trop vaincu. Elle va être maintenant l'autorité, le gouvernement, le roi. Et tout roi est impossible. Le pouvoir électoral, qui de même s'est trouvé obligé de se faire gouvernement, en quelques jours, il est tué, il le sent. Il prie les districts de lui créer un successeur. Au canon de la Bastille, il a frémi, il a douté. Gens de peu de foi. Perfide, non. Cette bourgeoisie de 89, nourrie du grand siècle de la philosophie, était certainement moins égoïste que la nôtre. Elle était flottante, incertaine, hardie de principe, timide d'application. Elle avait servi si longtemps. C'est la vertu du pouvoir judiciaire, lorsqu'il reste entier et fort, de suppléer tous les autres, et lui, nul ne le supplée. Il fut le soutien, la ressource de notre ancienne France dans ses plus terribles crises. Au XIVe siècle, au XVIe, il siégea, immuable et ferme. En sorte que dans la tempête, la patrie presque perdue se reconnaissait, se retrouvait toujours au sanctuaire inviolable de la justice civile. Eh bien, ce pouvoir est brisé. Brisé de son inconséquence et de ses contradictions. Servile et hardi à la fois, pour le roi et contre le roi, pour le pape et contre le pape, défenseur de la loi et champion du privilège, il parle de liberté et résiste un siècle à tout progrès libéral. Lui aussi, autant que le roi, il a trompé l'espoir du peuple. Quelle joie, quel enthousiasme quand le Parlement revint de l'exil à l'avènement de Louis XVI. Et c'est pour répondre à cette confiance qu'il s'unit aux privilégiés, arrête toute réforme, fait chasser Turgot. En 1787, le peuple le soutient encore et, pour l'en récompenser, le Parlement demande que les États généraux soient calqués sur la vieille forme de 1614, c'est-à-dire inutile, impuissant et dérisoire. Non, le peuple ne peut se fier au pouvoir judiciaire. Chose étrange, c'est ce pouvoir, gardien de l'ordre et des lois, qui a commencé l'émeute. Elle s'essaye autour du Parlement, à chaque lit de justice. Elle est encouragée des sourires du magistrat. Les jeunes conseillers, les Despremesnil, les Duport, pleins des souvenirs de la Fronde, ne demandent qu'à copier Broussel et le coadjuteur. La basoche organisée fournit une armée de clercs. Elle a son roi, ses jugements, ses prévôts, vieux étudiants comme était Moreau à Rennes, brillants parleurs et duellistes comme Barnave à Grenoble. La solennelle défense faite aux clercs de porter l'épée ne les rend que plus belliqueux. Le premier club fut celui que le conseiller Duport ouvrit chez lui, rue de Chaume au Marais. Il y réunit les parlementaires les plus avancés, les avocats, des députés, les bretons surtout. Le club transporté à Versailles s'appela le Club Breton. Revenu à Paris avec l'Assemblée et changeant de caractère, il s'établit aux Jacobins. Mirabeau n'alla qu'une fois chez Duport. Il appelait Duport, Barnave et Lamette le Triumgeza. Sieyès il alla aussi et n'y voulut pas retourner. « C'est une politique de caverne, disait-il. Ils prennent les attentats pour les expédients. Ils les désignent ailleurs, plus durement encore. On peut se les représenter comme une troupe de polissons méchants, toujours en action, criant, intriguant, s'agitant au hasard et sans mesure, puis riant du mal qu'ils avaient fait. On peut leur attribuer la meilleure part dans l'égarement de la Révolution. Heureuse encore la France et les agents subalternes de ses premiers perturbateurs, devenus chefs à leur tour par un genre d'hérédité ordinaire dans les longues révolutions, avaient renoncé à l'esprit dont ils furent agités si longtemps. Ces subalternes dont parle Sieyès, qui succéderont à leur chef, et qui leur sont bien supérieurs, furent surtout deux hommes, deux forces révolutionnaires, Camille Desmoulins et Danton. Ces deux hommes, le roi du pamphlet, le foudroyant orateur du palais royal avant d'être celui de la convention, nous n'en pouvons parler ici. Ils vont nous suivre au reste désormais et ne nous lâcheront pas. La comédie, la tragédie de la révolution sont en eux ou dans personne. Ils laisseront leur maître tout à l'heure faire les jacobins et ils fonderont les cordeliers. Pour le moment, tout est mêlé. Le grand club de 100 clubs, parmi les cafés, les jeux et les filles, c'est encore le palais royal. C'est là que le 12 juillet, Desmoulins cria « Aux armes !» C'est là que la nuit du 13 au 14 se firent les jugements de Flessel et de Delaunay. Ceux du comte d'Artois, des Condés, des Polignac leur furent expédiés à eux-mêmes. Ils eurent l'étonnante effet qu'on aurait à peine attendu de plusieurs batailles de les faire partir de France. De là, une prédilection funeste pour les moyens de terreur qui avaient si bien réussi. Desmoulins, dans le discours qu'il fait tenir à la lanterne de la grève, lui fait dire que les étrangers sont en extase devant elle, qu'ils admirent qu'une lanterne ait fait plus en deux jours que tous leurs héros en 100 ans. Desmoulins renouvelle avec une verve intarissable la vieille plaisanterie qui remplit tout le Moyen-Âge sur la potence, la corde, les pendus, etc. Ce supplice hideux, atroce, qui rend l'agonie risible, était le texte ordinaire des contes les plus joyeux, l'amusement du populaire, l'inspiration de la basoche. Celle-ci trouva tout ce génie dans Camille Desmoulins. Le jeune avocat Picard, très léger d'argent, plus léger de caractère, traînait sans cause au palais lorsque la Révolution le fit tout d'un coup plaider au palais royal. Pour être quelque peu bègue, il n'était que plus amusant. Les saillies errantes sur sa lèvre embarrassée s'échappaient comme des dards. Il suivait sa verve comique, sans trop s'informer si la tragédie n'allait pas en résulter. Les fameux jugements de la basoche, ces farces judiciaires qui avaient tant amusé l'ancien palais, n'étaient pas plus gais que les jugements du palais royal. La différence est que ceux-ci souvent s'exécutaient en grève. Chose étrange et qui fait rêver, c'est Desmoulins, ce polisson de génie aux plaisanteries mortelles, c'est ce taureau de Danton qui rugit le meurtre, ce sont eux, dans 4 années, qui périront pour avoir proposé le comité de la clémence. Mirabeau, Duport, les Lamettes, bien d'autres plus modérés, approuvaient les violences. Plusieurs disent qu'ils les conseillaient. Sieyès, en 88, demandait la mort des ministres. Mirabeau, le 14 juillet, cria « La tête de Breuil !» Il logeait chez lui Desmoulins. Il marchait volontiers entre Desmoulins et Danton. Ennuyé de ses genevois, il aimait bien mieux ceci, faisait écrire l'un, parler l'autre. Un homme très modéré, très sage, une tête froide. Targé était intimement lié avec Desmoulins et donnait son approbation au pamphlet de la lanterne. Ceci mérite explication. Personne ne croyait à la justice sinon à celle du peuple. Les légistes spécialement ont méprisé la loi, le droit d'alors, en contradiction avec toutes les idées du siècle. Ils connaissaient les tribunaux et savaient que la Révolution n'avait pas d'adversaire plus passionné que le Parlement, le Châtelet, les juges en général. Un tel juge, c'était l'ennemi. Remettre le jugement de l'ennemi à l'ennemi, le charger de décider entre la Révolution et les contre-révolutionnaires, c'était absoudre ceux-ci. Les rendre plus fiers et plus forts, les envoyer aux armes, commencer la guerre civile. Le pouvaient-ils ? Oui, malgré l'élan de Paris et la prise de la Bastille, ils avaient des troupes étrangères, ils avaient tous les officiers. Ils avaient spécialement un corps formidable qui faisait alors la gloire militaire de la France, les officiers de la marine. Le peuple seul, dans cette crise rapide, pouvait saisir et frapper des coupables si puissants. Mais si le peuple se trompe ? L'objection n'embarrassait pas les amis de la violence. Ils récriminaient. Combien de fois, répondaient-ils, le Parlement, le Châtelet, ne se sont-ils pas trompés ? Ils citaient les fameuses méprises des Calas et des Sirvennes. Ils rappelaient le terrible mémoire de Dupaty pour 3 hommes condamnés à la roue, ce mémoire brûlé par le Parlement qui ne pouvait y répondre. Quel jugement populaire, disaient-ils encore ? Seront jamais plus barbares que les procédures des tribunaux réguliers, comme elles sont encore en 89. Procédures secrètes, faites tout entière sur pièces que l'accusé ne voit pas. Les pièces non communiquées, les témoins non confrontés, sauf ce dernier petit moment où l'accusé, sorti à peine de la nuit de son cachot, effaré du jour, vient sur la sellette, répond ou ne répond pas, voit ses juges pendant 2 minutes pour s'entendre condamner. Barbare procédure, jugement plus barbare, supplice exécrable. On ose rappeler Damien écartelé, tenaillé, arrosé de plomb fondu. Peu avant la Révolution, on brûla un homme à Strasbourg. Le 11 août 89, le Parlement de Paris, qui meurt lui-même, condamne encore un homme à expirer sur la roue. De tels supplices, qui pour le spectateur même étaient des supplices, troublaient les âmes à fond, les effarouchaient, les rendaient folles, brouillaient toute idée de justice, tournaient la justice à rebours. Le coupable qui souffrait tant ne paraissait plus coupable. Le coupable, c'était le juge. Des montagnes de malédictions s'entassaient sur lui. La sensibilité s'exaltait jusqu'à la fureur, la pitié devenait féroce. L'histoire offre plusieurs exemples de cette sensibilité furieuse qui souvent mettait le peuple hors de tout respect, de toute crainte, et lui faisait rouer, brûler les officiers de justice en place du criminel. C'est un fait trop peu remarqué, mais qui fait comprendre bien des choses. Plusieurs de nos terroristes furent des hommes d'une sensibilité exaltée, maladive, qui ressentirent cruellement les maux du peuple et dont la pitié tourna en fureur. Ce remarquable phénomène se présentait principalement chez les hommes nerveux, d'une imagination faible et irritable, chez les artistes en tout genre. L'artiste est un homme-femme. Le peuple, dont les nerfs sont plus forts, suivit cet entraînement. Mais jamais, dans les premiers temps, il ne donnait l'impulsion. Les violences partaient du palais royal, où dominaient les bourgeois, les avocats, les artistes et gens de lettres. La responsabilité même entre ceux-ci n'était entière à personne. Un Camille Desmoulins levait le lièvre, ouvrait la chasse. Un Danton l'a poussé à mort, en parole bien entendu. Mais il ne manquait pas de muet pour exécuter, d'hommes pâles et furieux pour porter la chose à la grève, où elle était poussée par des Dantons inférieurs. Dans la foule misérable qui environnait ceux-ci, il y avait d'étranges figures comme échappées de l'autre monde. Des hommes à face de spectre, mais exaltés par la faim, ivres de jeûne, et qui n'étaient plus des hommes. On affirmait que plusieurs, au 20 juillet, ne mangeaient pas depuis 3 jours. Parfois, ils se résignaient, mouraient sans faire mal à personne. Les femmes ne se résignaient pas, elles avaient des enfants. Elles erraient comme des lionnes. En toute émeute, elles étaient les plus âpres, les plus furieuses. Elles poussaient les cris frénétiques, faisaient honte aux hommes de leur lenteur. Les jugements sommaires de la grève étaient toujours trop longs pour elles, elles pendaient tout d'abord. L'Angleterre a eu en ce siècle la poésie de la faim. Qui donnera son histoire en France? Terrible histoire au dernier siècle, négligée des historiens qui ont gardé leur pitié pour les artisans de famine. J'ai essayé d'y descendre, dans les cercles de cet enfer, guidée de proche en proche par de profonds cris de douleur. J'ai montré la terre de plus en plus stérile, à mesure que le fisc saisit, détruit le bétail et que la terre, sans engrais, est condamnée à un jeûne perpétuel. J'ai montré comment les nobles, les exempts d'impôts se multipliant, l'impôt allait pesant toujours davantage sur une terre toujours plus pauvre. Je n'ai pas assez montré comment l'aliment devient, par sa rareté même, l'objet d'un trafic éminemment productif. Les profits en sont si clairs que le roi veut aussi en être. Le monde voit avec étonnement un roi qui trafique de la vie de ses sujets, un roi qui spécule sur la disette et la mort, un roi assassin du peuple. La famine n'est plus seulement le résultat des saisons, un phénomène naturel. Ce n'est ni la pluie ni la grêle, c'est un fait d'ordre civil. On a faim de par le roi. Le roi ici, c'est le système. On eut faim sous Louis XV, on a faim sous Louis XVI. La famine est alors une science, un art compliqué d'administration, de commerce. Elle a son père et sa mère, le fisc, l'accaparement. Elle engendre une race à part, race bâtarde de fournisseurs, banquiers, financiers, fermiers généraux, intendants, conseillers, ministres. Un mot profond sur l'alliance des spéculateurs et des politiques, sorti des entrailles du peuple, pacte de famine. Parmi ces hommes, il y en avait un illustre depuis longtemps. Son nom, très expressif qu'il tâcha de justifier, Foulon, était dans la bouche du peuple dès 1756. Il avait commencé comme intendant d'armée et dans le pays ennemi. Vraiment terrible à l'Allemagne, il l'était encore plus à nos soldats. Ses fournitures valaient des batailles de Rossbach. Il était revenu gras de la maigreur de l'armée, 2 fois riche, par les jeûnes des Français et des Allemands. Foulon était spéculateur, financier, traitant d'une part de l'autre membre du conseil qui seul jugeait les traitants. Il comptait bien être ministre. Il serait mort de chagrin si la banqueroute s'était faite par un autre que par lui. Les lauriers de l'abbé Théré ne le laissaient pas dormir. Il avait le tort de prêcher trop haut son système. Sa langue travaillait contre lui et le rendait impossible. La cour goûtait fort l'idée de ne pas payer, Mais elle voulait emprunter. Et pour aller chez les prêteurs, il ne fallait pas appeler au ministère l'apôtre de la banqueroute. Foulon était déjà vieux, du bon temps de Louis XV, de cette école insolente qui faisait gloire de ses vols, qui démontrait hardiment, qui, pour trophée de brigandage, bâtissait sur le boulevard le pavillon de Hanovre. Lui, il s'était construit au lieu le plus fréquenté, au coin du boulevard du Temple, un délicieux hôtel qu'on admirait encore en 1845. Il était convaincu qu'en France, comme dit Figaro Beaumarchais, tout finit par des chansons. Donc, il faut payer d'audace, se moquer de l'opinion, la braver. De là des paroles qui se répétaient partout. S'ils ont faim, qu'ils broutent l'herbe. Patience, que je sois ministre, je leur ferai manger du foin. Mes chevaux en mangent. On lui imputait encore d'avoir dit ce mot terrible. Il faut faucher la France. Le vieux croyait, par ses bravades, plaire au jeune parti militaire, se recommander pour le jour qu'il voyait venir où la cour, voulant frapper quelques coups désespérés, chercherait un hardi coquin. Foulon avait un gendre selon son cœur, un homme capable mais dur de l'aveu des royalistes, Berthier, intendant de Paris, homme de peu de scrupules, puisqu'il avait épousé une fortune acquise ainsi. Venu de bas, d'une race de procureurs ou petits juges de province, il était rude au travail, actif, énergique. Libertin à 50 ans, malgré sa nombreuse famille, il achetait partout, dit-on, des petites filles de 12 ans. Il savait bien qu'il était détesté des Parisiens et fut trop heureux de trouver l'occasion de leur faire la guerre. Avec le vieux Foulon, il était l'âme du ministère de 3 jours. Le maréchal de Brune n'en augurait rien de bon, il obéissait. Mais Foulon, mais Berthier était très ardent. Celui-ci montra une activité diabolique à rassembler tout, armes, troupes, à fabriquer des cartouches. Si Paris ne fut point mis à feu et à sang, ce ne fut nullement sa faute. On s'étonne que des gens si riches, si parfaitement informés, mûrs d'ailleurs et d'expérience, se soient jetés dans ces folies. C'est que les grands spéculateurs financiers participent tous du joueur. Ils en ont les tentations. Or, l'affaire la plus lucrative qu'ils pouvaient trouver jamais, c'était d'être ainsi chargés de faire la banqueroute par exécution militaire. Cela a été hasardeux. Mais quelle grande affaire sans hasard! On gagne sur la tempête, on gagne sur l'incendie. Pourquoi pas sur la guerre et la famine? Qui ne risque rien n'a rien. La famine et la guerre, je veux dire Foulon et Berthier, qui croyaient tenir Paris, se trouvèrent déconcertés par la prise de la Bastille. Le soir du 14, Berthier essaya de rassurer Louis XVI. S'il en tirait un petit mot, il pouvait encore lancer ses Allemands sur Paris. Louis XVI ne dit rien, ne fit rien. Les deux hommes, dès ce moment, sentirent bien qu'ils étaient morts. Berthier s'enfuit vers le nord, filant la nuit d'un lieu à l'autre. Il passa 4 nuits sans dormir, sans s'arrêter, et n'alla pas plus loin que Soissons. Foulon n'essaya pas de fuir. D'abord, il fit dire partout qu'il n'avait pas voulu du ministère. Puis, qu'il était frappé d'une apoplexie. Puis, il fit le mort. Il s'enterra lui-même magnifiquement. Un de ses domestiques venait fort à point de mourir. Cela fait, il alla tout doucement chez son digne ami Sartine, l'ancien lieutenant de police. Il avait sujet d'avoir peur. Le mouvement était terrible. Remontons un peu plus haut. Dès le mois de mai, la famine avait chassé des populations entières, les poussées l'une sur l'autre. Caen et Rouen, Orléans, Lyon, Nancy avaient eu des combats à soutenir pour les grains. Marseille avait vu à ses portes une bande de 8000 affamés qui devaient piller ou mourir. Toute la ville, malgré le gouvernement, malgré le parlement d'Aix, avait pris les armes et restait armée. Le mouvement se ralentit un moment en juin. La France entière, les yeux fixés sur l'Assemblée, attendait qu'elle vainquît. Nul autre espoir de salut. Les plus extrêmes souffrances se turent un moment, une pensée dominait tout. Qui peut dire la rage, l'horreur de l'espoir trompé à la nouvelle du renvoi de Necker? Necker n'était pas un politique. Il était, comme on a vu, timide, vaniteux, ridicule. Mais dans l'affaire des subsistances, il fut, on lui doit cette justice, il fut administrateur, infatigable, ingénieux, plein d'industrie et de ressources. Il s'y montra, ce qui est bien plus, plein de cœur, bon et sensible. Personne ne voulant prêter à l'État, il emprunta en son nom. Il engagea son crédit jusqu'à 2 millions, la moitié de sa fortune. Renvoyé, il ne retira pas sa garantie. Il écrivit au prêteur qu'il la maintenait. Pour tout dire, s'il ne sut pas gouverner, il nourrit le peuple, le nourrit de son argent. Le mot Necker, le mot subsistance, cela sonnait du même son à l'oreille du peuple. Renvoi de Necker et famine. La famine sans espoir et sans remède, voilà ce que sentit la France au moment du 12 juillet. Les bastilles de province, celles de Caen, celles de Bordeaux, furent forcées ou se livrèrent pendant qu'on prenait celles de Paris. À Rennes, à Saint-Malo, à Strasbourg, les troupes fraternisèrent avec le peuple. À Caen, il y eut lutte entre les soldats. Quelques hommes du régiment d'Artois portaient des insignes patriotiques. Ceux du régiment de Bourbon, profitant de ce qu'ils étaient sans armes, les leur arrachèrent. On crut que le major Belzins les avait payés pour faire cette insulte à leurs camarades. Belzins était un joli officier spirituel, mais impertinent, violent, hautain. Il faisait bruit de son mépris pour l'Assemblée nationale, pour le peuple, la canaille. Il se promenait dans la ville, armé jusqu'aux dents, avec un domestique d'une mine féroce. Ses regards étaient provocants. Le peuple perdit patience, menaça, assiégea la caserne. Un officier eut l'imprudence de tirer, et alors la foule alla chercher du canon. Belzins se livra ou fut livré pour être conduit en prison. Il ne put y arriver. Il fut tué à coups de fusil, son corps déchiré, une femme mangea son cœur. Il y eut du sang à Rouen, à Lyon. À Saint-Germain, un meunier fut décapité. Un boulanger accapareur faillit périr à Poissy. Il ne fut sauvé que par une députation de l'Assemblée, qui se montra admirable de courage et d'humanité, risqua sa vie, n'emmena l'homme qu'après l'avoir demandé au peuple à genoux. Foulon eût peut-être passé ce moment d'orage s'il n'eût été haï que de toute la France. Son malheur était de l'être de ceux qui le connaissaient le mieux, de ses vassaux et serviteurs. Ils ne le perdaient pas de vue. Ils n'avaient pas été dupes du prétendu enterrement. Ils suivirent. Ils trouvèrent le mort qui se promenait bien portant dans le parc de M. de Sartine. « Tu voulais nous donner du foin? C'est toi qui en mangeras !» On lui met une motte de foin sur le dos, un bouquet d'orties, un collier de chardon. On le mène à pied à Paris, à l'hôtel de ville. On demande son jugement à la seule autorité qui resta, aux électeurs. Durent alors regretter de n'avoir pas hâté davantage la décision populaire qui allait créer un véritable pouvoir municipal, leur donner des successeurs et finir leur royauté. Royauté est le mot propre. Les gardes françaises ne montaient la garde à Versailles, près du roi, qu'en prenant l'ordre, chose étrange, des électeurs de Paris. Ce pouvoir illégal, invoqué pour tout, impuissant pour tout, affaibli encore de son association fortuite avec les anciens échevins, n'ayant pour tête que le bonhomme Bailly, le nouveau maire, n'ayant pour bras que Lafayette, commandant d'une garde nationale qui s'organisait à peine, allait se trouver en face d'une nécessité terrible. Ils apprirent presque à la fois qu'on avait arrêté Berthier à Compiègne et qu'on amenait Foulon. Pour le premier, ils prirent une responsabilité grave, hardie, la peur l'est parfois, celle de dire aux gens de Compiègne qu'il n'existait aucune raison de détenir M. Berthier. Ceux-ci répondirent qu'il serait alors tué sûrement à Compiègne, qu'on ne pouvait le sauver qu'en l'amenant à Paris. Quant à Foulon, on décida que désormais les accusés de ce genre seraient déposés à l'abbaye et qu'on inscrirait ces mots sur la porte « Prisonnier mis sous la main de la nation ». Cette mesure générale, prise dans l'intérêt d'un homme, assurait à l'ex-conseiller d'être jugé par ses amis et collègues, les anciens magistrats, seuls juges qui fussent alors. Tout cela était trop clair, mais aussi fort surveillé par des gens bien clairvoyants, les procureurs et la basoche, par les rentiers, ennemis du ministre de la banqueroute, par beaucoup d'hommes enfin qui avaient des effets publics et que ruinait la baisse. Un procureur fit passer une note à la charge de Berthier sur ses dépôts de fusils. La basoche soutenait qu'il avait encore un de ses dépôts chez l'abbesse de Montmartre et força d'y envoyer. La grève était pleine d'hommes étrangers au peuple, d'un extérieur décent, quelques-uns fort bien vêtus. La bourse était à la grève. On venait en même temps dénoncer à l'hôtel de ville un autre financier, Beaumarchais, qui avait volé des papiers de la Bastille. On les lui fit rapporter. On crut faire taire au moins les pauvres en leur remplissant la bouche. On baissa le prix du pain, au moyen d'un sacrifice de 30 000 francs par jour. Il fut mis à 13 sols et demi les 4 livres, qui en vaudraient 20 aujourd'hui. La grève n'en criait pas moins. À 2 heures, Bailly descend. Tous lui demandent justice. Il exposa les principes et fit quelque impression sur ceux qui pouvaient l'entendre. Les autres criaient « Pendu, pendu !» Bailly alla prudemment s'enfermer au bureau des subsistances. « La garde était forte, dit-il, mais M. de Lafayette, qui comptait sur son ascendant, eut l'imprudence de la diminuer. » La foule était dans une terrible inquiétude que Foulon ne se sauva. On le leur montra à une fenêtre, ils n'en forcèrent pas moins les portes. Il fallait l'asseoir sur une chaise devant le bureau, dans la salle Saint-Jean. Là, on recommença à les prêcher, à leur exposer les principes qu'ils devaient être jugés. « Jugés de suite et pendus, dit la foule. Elle nomma sur le champ des juges, entre autres 2 curés qui refusèrent. « Mais place! Voici M. de Lafayette qui arrive !» Il parle à son tour. « Avoue que Foulon est un scélérat. mais dit qu'il faut connaître ses complices, qu'on le mène à l'abbaye. Les premiers rangs qui entendent consentent, les autres non. Vous vous moquez du monde, dit un homme bien vêtu. Faut-il du temps pour juger un homme qui est jugé depuis 30 ans? En même temps, un cri s'élève, une foule nouvelle pénètre. Les uns disent « C'est le faubourg !» Les autres « C'est le palais royal !» Foulon est enlevé, porté à la lanterne de l'en face. On lui fait demander pardon à la nation, puis hissé, par deux fois la corde casse. On persiste, on en va chercher une neuve, pendue enfin, décapitée, la tête portée dans Paris. Cependant, Mertier est arrivé par la porte Saint-Martin, à travers le plus épouvantable rassemblement qu'on ait vu jamais. On le suivait depuis 20 lieues. Il était dans un cabriolet dont on avait brisé l'impérial afin de le voir. Près de lui, un électeur, Étienne de la Rivière, qui 20 fois faillit périr en le défendant et le couvrait de son corps. Des enragés dansaient devant. D'autres lui jetaient du pain noir dans la voiture. « Tiens, brigand, voilà le pain que tu nous faisais manger !» Ce qui exaspérait aussi toute la population des environs de Paris, c'est qu'au milieu de la disette, la nombreuse cavalerie rassemblée par Berthier et Foulon avait détruit, mangé en verre, une grande quantité de jeune blé. On attribuait ces dégâts aux ordres de l'intendant, à une ferme résolution d'empêcher toute récolte et de faire mourir le peuple. Pour orner cet horrible triomphe de la mort, on portait devant Berthier, comme au triomphe romain, les inscriptions à sa gloire. Il a volé le roi et la France. Il a dévoré la substance du peuple. Il a été l'esclave des riches et le tyran des pauvres. Il a bu le sang de la veuve et de l'orphelin. Il a trompé le roi. Il a trahi sa patrie. On eut la barbarie, à la fontaine Maubuée, de lui montrer la tête de Foulon, livide et du foin dans la bouche. À cette vue, ses yeux devinrent ternes. Il pâlit et il sourit. On força Bailly à l'hôtel de ville de l'interroger. Berthier allégua les ordres supérieurs, ceux du ministre. Le ministre était son beau-père, c'était la même personne. Au reste, si la salle Saint-Jean écoutait un peu, la grève n'écoutait pas, n'entendait pas. Les cris étaient si affreux que le maire et les électeurs se troublaient de plus en plus. Un flot tout nouveau de foule ayant percé la foule même, il n'y eut plus moyen de tenir. Le maire, sur l'avis du bureau, dit « À l'abbaye !» ajoutant que la garde répondait du prisonnier. Elle ne put les défendre, mais lui, il se défendit. Il empoigna un fusil. 100 baïonnettes le percèrent. Un dragon qui lui imputait la mort de son père lui arracha le cœur et l'alla montrer à l'hôtel de ville. Ceux qui avaient observé des fenêtres, dans la grève, l'habileté des meneurs à pousser et chauffer les groupes, crurent que les complices de Berthier avaient bien pris leurs mesures pour qu'il n'eût pas le temps de faire des révélations. Lui seul, peut-être, avait la vraie pensée du parti. Dans son portefeuille, on trouva le signalement de beaucoup d'amis de la liberté qui, sans doute, n'avaient rien de bon à attendre si la cour avait vaincu. Quoi qu'il en soit, un grand nombre des camarades du dragon lui déclarèrent qu'ayant déshonoré le corps, il devait mourir, et que tous, ils se battraient contre lui jusqu'à ce qu'il fût tué. Il le fut dès le soir même.